Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Elle pense d'abord écrire un roman dont son père serait le personnage principal. Puis elle renonce avec, dit-elle, une sensation de dégoût au milieu du récit. Pour rendre compte de cette vie soumise à la nécessité, le roman est impossible. Je n'ai pas le droit de prendre le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. Ainsi, Annie Ernaux écrit-elle « La place » sur la vie de son père. L'histoire commence quelques mois avant le XXe siècle dans un village du pays de Caux, à 25 km de la mer. Elle se poursuit avec la vie de cet homme, mi-commerçant, mi-ouvrier, qui finit par tenir un café d'habitué, buveur régulier, d'avant et après le travail, dans un quartier décentré, à mi-chemin de la gare et de l'hospice. La fille raconte la peur qu'il a d'être déplacé, la honte, la crainte de péter plus haut qu'on l'a. Elle insère dans le texte des expressions de son père, sa langue, en italique, indirect libre, pas si plat que ça. Elle décrit ses façons de vivre, de penser, de manger avec précision, mais ce n'est pas une tranche de vie bien saignante. Pour manger, écrit Annie Ernaux, il ne se servait que de son opinel. Il coupait le pain en petits cubes, déposés près de son assiette, pour y piquer des bouts de fromage, de charcuterie et saucé. Le repas fini, il essuyait son couteau contre son bleu. S'il avait mangé du hareng, il l'enfouissait dans la terre pour lui enlever l'odeur. Peu à peu, la fille étudie, réussit, se détache, se déclasse et poursuit son récit, un des textes les plus beaux qui ait été écrit sur la vie d'un père. Tout de suite, dans Les pieds sur terre, La vie de mon père, donc, trois récits qu'Annie Ernaux ne renierait pas, j'espère, deux lycéennes et un lycéen, deux d'entre eux étudient à Bobigny et un dans les beaux quartiers de Paris, à vous de voir lesquels. C'est la suite des années lycée, une série de Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Quand j'étais petite, la vie de mon père, je la connaissais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'il travaillait dans le nettoyage, dans une société. Mais à part ça, aucune idée. Il n'en parlait pas, du coup, je pouvais rien savoir. Je le voyais juste avec une tenue. Enfin, des fois, il ramenait des produits à la maison, du papier toilette, des choses comme ça. Il en ramenait souvent. Du coup, moi, de ma tête, je me suis fait mon petit calcul. Je me suis dit, bon, ben, il fait le ménage. Il partait vers 6h du matin, tout le monde dormait. Je le voyais pas partir. Après, j'ai pensé, en fait, je me suis dit, c'est un éboueur ou... Enfin, pour moi, c'était un mystère déjà. Et un jour, je lui ai demandé, est-ce que je peux venir avec toi? Il m'a dit oui direct. Le matin, il m'a réveillé vers 5h30, mes yeux piquaient. On avait pris le premier métro, si je ne me trompe pas. On est sorti, il faisait noir. On a marché 3-4 minutes, après on est arrivé. En fait, j'ai reconnu le logo. Parce que parfois, je sais pas, ils ramènent des petits prospectus. Même si c'est pas à lire, parfois ils ramènent des trucs. Et du coup, moi, j'ai vu le logo en gros, Ipsos. Et c'était une institut de sondage. Je me suis dit, c'est super grand en fait. Je crois qu'il y a 6 étages. Moi, je trouve que c'était un bel immeuble. Et j'étais contente qu'ils travaillent dans un bel immeuble. Par contre, il y a une entrée. Tu sens que c'est pour les personnes qui travaillent dans les bureaux. C'est avec un badge, il y a des portiques. Alors qu'en fait, ceux qui travaillent pour faire le ménage, ils passent directement par là, que c'est des poubelles. Ça annonce la couleur, quoi. Il est parti par les poubelles, il est parti se changer. Et après, on est monté. Quand on est rentré, on a dit bonjour à ses collègues. Il prend directement son seau, des sacs poubelles. Il travaillait avec un chariot de ménage et il y avait de l'eau. Il me disait, ouais, prends le seau, tu mets de l'eau. Il me disait, moule à lavette. Je le faisais. Il vidait les petites poubelles dans un grand sac. Moi, je pensais que j'allais voir plein de gens dans des bureaux en train de travailler, qu'en fait, non, pas du tout. J'ai vu personne. Puisque, en fait, les collègues, ils ne travaillent pas dans le même étage que toi, parfois. Tu ne pourras même pas les rencontrer. Du coup, je me dis, mais en fait, il est tout seul, clairement. Je me suis dit, c'est nul, en fait, de travailler comme ça. Du coup, ça a fait un peu bizarre. De faire quelque chose qui n'est pas amusant dans un bel endroit. Moi, j'aimerais bien travailler dans le cinéma, le théâtre et tout ce qui est photographie, les montages, les affiches. En fait, le travail de mon père, moi, je trouve que c'est un bon travail, mais il est fatigant. En fait, ce n'est pas un travail où forcément tu réfléchis ou tu as un stylo, mais c'est fatigant physiquement. Mais je me dis, il n'a pas eu besoin d'un bac plus 5 ou même un bac général pour faire ce travail. Alors qu'en fait, il est plus fatigué que certains employés, moi, je pense. Moi, je trouve que ça doit être plus payé. Hein. Dans ma tête, je me dis, mais en fait, si il est là-bas, c'est parce qu'il aime bien ou c'est parce qu'il n'a pas de choix? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est une routine, son travail. Ce n'est pas comme si... C'était un métier où tu pouvais voyager. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un métier où tu découvres le monde. J'ai l'impression que ce métier, t'es un peu enfermé. Par exemple, mon père, c'est un Malien. Ma mère, elle vient du Sénégal et du Mali. Enfin, quand ils vont dans leur pays, c'est plus pour se reposer et pas pour visiter. Mon père, quand il est dans son pays, je sais qu'il se lève tôt parce que c'est une habitude. Alors que je me dis, mais en fait, moi, si j'ai travaillé pendant des années et je vais dans mon pays... Et que je dors, je ne vais plus me réveiller en fait.
La vie de mon père, c'est sans cesse se battre contre ma mère. Pas forcément physiquement, mais verbalement. C'est résister au maximum et faire en sorte que le divorce se finisse le plus vite possible. Ça a commencé en juin 2016. Mes parents, du jour au lendemain, ne se parlaient plus trop. Ils nous ont annoncé à la rentrée avec mon frère et ma sœur qu'ils allaient divorcer, qu'ils allaient ne plus vivre sous le même toit et que mon père partait à l'hôtel et que ma mère restait. Et là, j'étais complètement chamboulée. On s'est tous regardés, on s'est tous dit que, tout allait s'écrouler, qu'il n'y avait plus aucun équilibre familial. J'arrivais pas à visualiser que du jour au lendemain, ma mère et mon père qui s'aimaient énormément, qui avaient une relation, basée sur la complicité, se détestent à ce point maintenant. Pendant un ou deux mois, je crois qu'il était dans un hôtel. Et le week-end, il revenait dans l'appartement lorsque ma mère partait pour passer le week-end avec nous et qu'on continue de le voir. Il essayait vraiment de nous rassurer et il essaye de faire ça tout le temps en mettant une super organisation. Et il essayait de garder cette figure un peu paternelle, d'un père fort. Tout était vraiment sous contrôle et tout allait bien. Mais après, les premiers conflits, c'était sur la somme qu'il donnait à ma mère, la pension. Comme quoi, elle avait pas assez. Et puis, mon père qui veut lui réduire encore sa pension. À chaque fois, il faut partager l'argent même. Là, par exemple, je dois me prendre une carte jeune pour le TGV. Et si mes deux parents ne mettent pas la même somme, c'est-à-dire que si mon père la paye en entier... Je l'aurai que chez lui et qu'il faut que je m'en rachète une pour chez ma mère et que du coup il doit vraiment partager. Mais on a énormément de discussions sur l'argent. Les deux ont pas une différence de salaire énorme. Ma mère travaille dans le cinéma et mon père travaille dans une agence immobilière. Et on manque pas du tout d'argent, mais pourtant on est quand même ramené à en parler, à dire que mon empire, que ma mère n'en fait pas bon usage, que mon père en a énormément et qu'il en cache, des trucs pour attaquer l'un ou l'autre. Et ma mère voulait plus d'argent, donc commence à attaquer sur l'héritage qu'il a eu de ses parents, qui lui tient beaucoup à cœur, qui sont morts assez jeunes, et il y avait notamment des bijoux, de l'argent qu'ils ont récolté tout au long d'une vie. Et le fait qu'il doit le partager avec la personne qu'il déteste le plus, c'est un nouveau combat encore qu'il n'a pas sous contrôle. Et je me disais, non mais dans quoi on s'est embarqué dans ce divorce? Il voulait juste se séparer, au final il se retrouve à creuser dans le passé toutes les histoires pour avoir la situation la plus équitable possible. Mais ça dégénère. Personnellement, dans le divorce, je suis un peu perdue parce que dès que je vais chez mon père, j'ai un fait, et dès que je vais chez ma mère, j'ai l'inverse. Et du coup, il faut que j'arrive toujours à me situer, à savoir qui dit la vérité, qui exagère le truc, qui va gonfler un peu l'information. Je sais plus qui croire. Je suis un peu perdue dans ce truc-là. Ça a eu des séquelles sur moi, parce que j'ai toujours peur de m'attacher, que ce soit en amitié ou en amour. Je me projette tout le temps à voir une rupture. Quand je me projette, j'ai extrêmement peur de devoir me séparer d'une personne. Je me suis mise en couple après leur rupture. Et j'ai rompu pendant ce divorce. Et ça a été une rupture hyper difficile parce que je m'identifiais vachement à mes parents. Ça m'a beaucoup touchée parce que je vivais deux séparations en même temps. Et que, je voyais ce divorce qui n'en finit pas, qui va encore durer des années. Et que je me dis, non, mais j'ai même plus envie de me marier. Et inconsciemment, je me suis mis ça dans la tête. Mais c'est vraiment à partir du moment où ils se sont séparés que je me suis dit que je voyais pas du bonheur dans un mariage.
La vie de mon père a commencé en Roumanie, à Târgoviște. C'est pas loin de la capitale. Et on est venu en France, j'avais vers les 4 ans. On est arrivé dans un appartement directement. Mais ça se passait pas très bien, dans le sens où mon père, il était un peu difficile. Par exemple... Je sais pas, je pense que les autres enfants, leur papa, ils les emmenaient au parc ou des choses comme ça. Moi, mon père, il m'a jamais dit oui, on va aller au parc, oui, je t'emmène quelque part ou un truc. Chaque fois, il rentrait du travail, il allait directement dans sa chambre. Donc, j'avais pas de conversation avec lui. Voilà, c'est mon papa, donc je lui dis bonjour, mais ça s'arrêtait vraiment à là. Bonjour, je rentrais dans ma chambre. Je faisais mes devoirs, ou je restais sur mon téléphone, ou quelque chose. Et après, je le voyais plus. Jusqu'au lendemain, pour le redire bonjour. Il me parlait pas. En fait, il m'a jamais parlé de choses, je sais pas, pour apprendre à sa fille, tout ça. Le seul moment où je lui parle, c'est... par exemple, quand il faut signer un truc pour l'école, et encore si c'est vraiment important. S'il avait besoin de traduire un truc, etc., il m'en parlait. Donc, je pouvais pas lui dire ce qui m'arrivait, des choses comme ça. J'avais peur qu'il me comprenne pas. En Roumanie, je sais qu'il travaillait... dans des sortes d'entreprises, quelque chose du genre. Je pense qu'il travaille dans le domaine de l'informatique, électrique, tout ça. Parce que quand j'étais petite, il réparait les ordinateurs. Par exemple, quand mon téléphone ne marchait pas ou un ordinateur ne fonctionnait pas, il réparait. Donc il s'y connaît assez bien. Et je sais qu'une fois, il m'a dit qu'il était à la Défense. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait ou quoi. On n'a pas eu de discussion concrète sur le travail, sur sa vie personnelle. Je pense qu'il est venu en France pour le travail, comme la plupart des gens. Et je pense que ça devait être compliqué pour lui. Une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau pays. Quitter ses proches, sa famille. C'est pour ça aussi que je me suis dit qu'il ne faudrait pas que je lui casse un peu la tête à poser trop de questions, à trop parler. Pour pas, peut-être quand il vient du travail, il est fatigué et tout ça. Donc, moi aussi, je n'ai pas essayé d'entamer vraiment une relation. Je me suis un peu arrêtée. Comme s'il y avait des limites, en fait. Je sais que, il s'entendait pas très très bien avec ma mère. Il se parlait pas beaucoup. Il savait pas comment faire. Ou je sais pas s'il voulait, en fait, que ça se passe mieux. Je sais pas. Je voyais que c'était pas comme les autres parents. Je voyais pas mes parents se faire des câlins, des bisous, des choses comme ça. Je sais pas, je l'entendais pas à lui dire des « je t'aime », etc. Moi, dans ma famille, on n'a jamais entendu mes parents se dire « je t'aime ». Et ce qui a fait aussi que moi-même, mes parents, en fait, ils m'ont pas dit vraiment « je t'aime ». Ouais, j'étais vraiment pas habituée à recevoir de l'amour. Quand j'ai commencé à grandir, etc., je me suis renfermée aussi. J'avais pas de relation, que ce soit amicale ou plus, pas avoir mal. Comme j'ai pas vraiment eu de relation avec mon père, j'ai vraiment eu un vide dans mon cœur. Nous les jeunes, on aime bien dire qu'on a un cœur noir. Cœur noir, c'est vraiment tu t'attaches à personne, Tu vis ta vie, quoi. Tu t'en fous. C'est pas ce qui se passe autour de toi, ça t'atteint pas. T'es au-dessus de ça. Mais d'un côté aussi, quand tu veux garder ton cœur et tu veux être un cœur noir, tu vis pas. Parce que t'as pas de relation. J'ai pas. En fait, moi, ça m'a fait mal qu'il soit pas beaucoup là et des choses comme ça. Donc j'essaie vraiment de pas retenir ces moments-là et de me dire que malgré tout, il reste mon père et je l'aime. Et même s'il n'a pas été là pour moi ou au moment peut-être où j'avais besoin, je l'en veux pas. J'essaie juste d'oublier pour pas que ça me fasse mal. Je veux pas y penser, en fait. J'ai besoin de refaire ma vie seule. J'ai eu 16 ans. Donc, dans 2 ans, je vais finir l'école. Et je compte partir faire ma propre vie, développer mes projets. Je veux avancer sur le plan professionnel. En fait, j'ai toujours apprécié les perruques naturelles. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire moi-même. Et j'ai commencé à en faire. Et j'ai commencé à avoir des clients petit à petit, des personnes qui me disaient, ah, tu fais des perruques, moi ça me plairait, tout ça. Ce sont des cheveux 100% naturels qui proviennent de femmes brésiliennes, péruviennes, parce que voilà, elles ont des beaux cheveux. Je connaissais des contacts avec des fournisseurs de mèches, donc je commande les mèches, tout ça, et je les fais à la machine. Et entre-temps, j'ai créé un Instagram pour les perruques. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. J'ai dû peut-être en un mois en vendre une dizaine à peu près. Et je veux développer un business assez rapidement pour avoir assez d'argent pour m'échapper de tout ça, pour partir. En fait, j'ai besoin de grandir et je veux avancer dans ma vie.
Mon père, il s'appelle Robert, il a 35 ans, il est d'origine arménienne, il est né en Syrie et puis il a grandi là-bas. Je ne sais pas grand-chose sur la jeunesse de mon père. Tout ce que je sais, c'est que c'est un enfant indiscipliné, il était très sauvage et puis En grandissant, bah, il s'est assagi. Après, il a trouvé un métier bien. Il était maître soudeur. Il travaille dans la ferraille. Il fait de la soudure dans les grands chantiers, tout ça. Après, il a rencontré ma mère. Et puis, il m'a eu en 2003. Il m'a appelé Leven. 2 ans après, il a eu mon petit frère, qui s'appelle Ratchik. Quand j'avais 2 ans, il s'est séparé avec ma mère. Et quand ils se sont séparés, mon père nous a pris avec lui, puis on est parti vivre avec lui chez mes grands-parents. Et de ce jour-là, je n'avais pas revu ma mère. Et après, mon père, il est parti. Il a décidé de venir ici en Europe, tout seul, pour trouver un métier, une maison ici en Europe. Il disait qu'en Europe, c'était mieux pour nous et pour lui qu'en Syrie. À l'époque, c'était la crise, entre guillemets. Du coup, il a décidé de venir chercher un lieu où travailler, avoir une maison et tout ça pour que mon petit frère et moi puisse grandir. J'avais 4 ans quand il est revenu, mon petit frère il en avait 2. Et là, il a dit à mes grands-parents, j'ai trouvé un endroit où on pourrait s'installer. Du coup, on a préparé nos affaires. Et puis, avant de partir, mon père a appelé ma mère. Il a appelé ma mère, il lui a dit, viens dire au revoir à tes enfants parce qu'on va partir en Europe. Sachant que j'avais pas vu ma mère depuis 2 ans. Et du coup, on a préparé nos affaires et le lendemain, on est parti. Et pendant les 4 prochaines années, ce que je vais vivre, et bah, ça va rester marqué à vie dans ma mémoire. Ce que je savais pas, c'est que mon père, quand il est parti tout seul en Europe, et ben il avait pas obtenu droit d'asile. Il nous avait fait croire qu'il avait trouvé un endroit, que ça allait bien se passer, mais sauf qu'il avait perdu nos papiers et il avait pas d'endroit où aller. Du coup, le seul moyen qu'on devait faire pour partir, c'est voyager clandestinement, comme les migrants d'aujourd'hui qu'on voit à la télé. Il nous rassurait, il nous disait que ça allait bien se passer, qu'il fallait pas avoir peur, qu'il était là pour nous protéger, qu'il nous arrivera rien. On va marcher la nuit pour pouvoir aller dans les autres pays. Le premier soir, on a quitté, on est parti. J'avais un sac à dos avec 3 vêtements dedans. On est monté dans un train. Il est parti, il est arrivé au nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie. Et une fois descendu, on a marché. Et pendant 4 ans, je suivais. Donc on est passé par à peu près tous les pays de l'Europe. On a fait Turquie, Grèce, Italie. Après on a fait la France, on est descendu en Espagne. Après on a fait le Portugal, on est remonté en France. Après on est parti en Allemagne. On est resté là-bas dans un camp de réfugiés, on est remonté. Suède, Danemark, Norvège, tout ça. À chaque fois l'idée c'était de se poser, d'avoir le droit d'asile, d'avoir le droit de travailler là-bas pour mon père et le droit d'avoir une maison. Il a demandé le droit d'asile dans à peu près tous les pays de l'Europe. Chose à ne pas faire parce que lorsqu'on demande un droit d'asile, on est obligé d'attendre la réponse du pays avant de demander à un autre pays, si la réponse est négative. Mais mon père, comme il n'était pas patient, il n'attendait pas. Il voyait que ça prenait trop de temps, alors il partait. Il nous prenait, on partait, clandestinement, on montait dans les trains, on se cachait dans les toilettes pour éviter de se faire prendre par les contrôleurs. On marchait des nuits à travers les forêts, tout ça. On se cachait dans les camions, on payait des passeurs. La boule au vent, tout ça pendant 4 ans. On est arrivé en France, dans la banlieue, on est arrivé à Alfortville. Alfortville, c'était une ville que mon père il connaissait d'avant, quand il était venu ici tout seul, parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens dans cette ville. Du coup, il s'était fait des amis et puis il a revu son ami. Du coup, ils se sont pris dans les bras. Il nous a présenté, il a dit « ça, c'est mes enfants et tout ». Du coup, on a dormi 2 nuits chez lui. Et après, il a dit « tu peux plus dormir chez moi et tout, je vais te passer les clés de ma voiture, tu vas dormir dans la voiture ». On a dormi pendant 1 semaine et tout. Et après, il a appelé une amie à lui, elle s'appelait Martha. Voilà, il leur a raconté un peu l'histoire et tout. Et elle a dit qu'elle voulait bien nous héberger. On est parti dormir chez elle pendant 1 semaine. Et puis, au bout d'une semaine, mon père, il était rentré alcoolique. Du coup, il était violent envers cette dame. Et cette dame, bah, elle a appelé la police. Et la police, ils sont venus chercher mon père. Ils ont vu qu'on n'avait pas de papier, qu'on n'était pas en sécurité avec notre père et tout. Ils ont appelé l'aide sociale à l'enfance. Et puis, ils sont venus nous chercher. Et après, on était placés en foyer. Et puis, mon père était censé venir nous voir tous les mardis. Et puis, un mardi, il n'est pas venu. Et après, notre référente nous a dit, votre père est en prison. Voilà la vie de mon père.
I remember how you said that sometimes it gets just a little hard being home. This says look in my bed and memories in my head. Love, I've been trying to let this whole thing go. See, it was late, I dropped you home cause we were sober. And you said, well, why don't you stay? I said, love, it's just a little late for you to be seeing me this way. See, I like you, put my guard up in case you let me down. But you can't blame that I wasn't always around. See, I keep my guard up because you were the one to run away. See, well, I keep my guard up in case you let me down. No, but you can't blame that I wasn't always around. See, I keep my guard up because you were the one to run away. Yeah, you were the one. You see, well, I remember how you said that sometimes it gets just a little hard being alone. There's sense stuck in my head and memories of us in bed. See, love, I'm still trying to let this whole thing go. And it was late when I dropped you home cause we were sober. And you say, well, why don't you stay? I said, love is just a little late for you to be seeing me this way. See, well, I keep my guard up because you let me down. But you can't blame that I wasn't always around. See, I keep my guard up because you were the one. See, well, I keep my guard up in case you let me down. No, but you can't blame that I wasn't always around. See, I keep my guard up because you were the ones to run away. But oh, well, I need these kisses like they're free. Her voice sings to me when I hear her calling. When I hear her calling, she gives me kisses like she needs me. And it's so sweet cause I know that she does. But I need these kisses like they're free. Her voice sings to me when I hear her calling. When I hear her calling.
C'était La vie de mon père, un reportage de Delphine Saltel et la suite de sa série intitulée Les années lycées. Merci à Emmanuel Geoffroy qui a réalisé cette émission, à Aude Paul et à Leslie Riowal. C'est Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre en ce moment. Et c'est Lorenzo Cucchiaro, notre nouveau stagiaire.